Tout de suite, sur France Culture, du lundi au jeudi, un tout nouveau rendez-vous, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio aux coups humains, un thème, 4 épisodes, et le documentaire devient addictif. Cette semaine, Aux marges du territoire, une série de Julie Gacon réalisée par Yvon Croisier. Au départ de cette série, il y a des entre-deux, des confins qui sont des commencements autant que des fins, des lieux familiers et pourtant étrangers, de ces territoires qui mordent les uns sur les autres, que l'histoire a enchevêtrés et que l'usage rend hybrides. Des endroits qui sont des frontières administratives où l'on traque les migrants, autant que des territoires d'enfance. Des lieux indéterminés à statut particulier, où la prostitution a pu s'installer, des lignes imaginaires qui sont pourtant parfois la limite réelle entre la mort et la vie. Ou simplement, un lac qui sépare le pays où l'on vit de celui où l'on travaille. Pour commencer, les personnages. Des migrants qui veulent passer de l'Italie à la France, des policiers qui contrôlent et qui raccompagnent de l'autre côté de la frontière, des directeurs de cabinet qui veillent d'un œil sévère, une auteure qui se souvient de son enfance d'étrangère dans un village coincé entre Savoie et Italie, un archiviste et un amoureux des chemins de fer. Ensuite, le décor, des gares françaises, d'autres italiennes, et même une gare mussolinienne, comique, à force d'être gigantesque. Un train qui serpente sur les crêtes et qui, à chaque virage, change de pays, des wagons et des chemins de traverse. On est en France et en Italie, dans le creux d'une longue histoire de frontières mouvantes.
Messieurs les agents de la police aux frontières, le train arrive à 8h14, ici oui. En gare de Menton-Garavant. Et donc vous êtes positionnés à deux, en bout de quai. Deux autres collègues sont à l'autre bout.
Voilà, des collègues au milieu, et puis on va essayer de se rejoindre en faisant du contrôle pour cibler l'ensemble du train. Voilà. Faire du contrôle aléatoire, regarder un petit peu toutes les caches en ouvrant les locaux techniques, les toilettes. Et puis rejoindre les collègues pour avoir fait un contrôle de l'ensemble du train.
Le billet numéro 1 de 1947, à destination de Gand, départ 12h57, desservira Avignon-Fontanil, Fayot-Saint-Pec, Peil, Lescarène, Toer de Lescarène, Sospel, Breil-sur-Royat, Pont-en-Sorge, Saint-Alma-de-Tende, La Brigue, Tende.
Marie-Line Desbioles, la dame qui nous annonce les horaires de train, a un petit problème d'élocution.
Elle ne dit pas les mots comme il faut. Il faut dire ça, Orge et Saint-Dalmas de Tende. C'est drôle. On dirait que ça a été enregistré à Paris.
Bon, alors on est vraiment tout seul là ce matin sur le quai de la gare de Drape-Cantaron, un peu au-dessus de Nice. On attend le train pour Tende et on est les seuls.
Mais j'ai le souvenir d'ailleurs de quand je l'ai pris, d'être seul aussi, enfin avec ma petite famille. Mais cette fois, la fois dernière, on avait des valises. Parce qu'on allait jusqu'à Turin.
Vous alliez à l'étranger, en fait.
On allait à l'étranger. Est-ce bien l'étranger? Quand on est ici, on peut se demander, parce que les endroits qu'on va traverser avec ce train sont vraiment très italiens, très vite.
On va traverser trois vallées. On va d'abord traverser la vallée du Paillon, la vallée de Bevera et la vallée de la Roya, qui est une vallée donc, que vous avez beaucoup regardée lors de vos longs voyages en train, alors avec votre famille pour aller à Turin, mais aussi lors de ces voyages que vous avez faits seul pour partir à la quête d'une histoire familiale, celle de votre grand-mère italienne. Et donc vous avez longtemps pris ce train pour en faire un livre, Marie-Line Desbioles, Primo. Le train arrive en gare de Drape-Cantaron. Cette gare perdue au milieu des montagnes, la mer n'est pas loin. Et dans ce train de la vallée de la Roya, nous n'allons pas vers la frontière, écrivez-vous, nous voyageons en elle.
de frontière entre la France et l'Italie. Julie Gacon, Yvon Croisier.
Entre la France et l'Italie, des trains pour franchir les Alpes, pour aller travailler, pour faire ses courses, pour partir en vacances, s'émerveiller des paysages.
Bonjour. Bonjour, je vous demandais une pièce d'identité, s'il vous plaît.
Mais aussi pour se sauver, fuir, migrer.
Merci.
Chasse et croisée entre Nice et Turin, merci. Entre Menton et Vintimille. D'un côté, une écrivain, Marilyn Desbioles, aux origines savoyardes et italiennes, dont l'histoire familiale se confond au méandre d'une voie ferrée qui joue un peu à saut de frontière. De l'autre, des policiers chargés de contrôler les flux migratoires et le cas échéant de reconduire, non pas à la frontière, mais bien de l'autre côté.
Messieurs, dames, bonjour, je vous demandais une pièce d'identité, s'il vous plaît. Passeport. Merci. Vous avez le titre de séjour, s'il vous plaît. Merci. Monsieur, bonjour. Pièce d'identité, s'il vous plaît.
Une carte d'identité ou un passeport, s'il vous plaît.
Monsieur, je viens de les perdre. Là. Je viens de voir vos collègues tout à l'heure. Et j'ai pas de papier sur moi actuellement.
Vous venez avec nous, on va
bien. Bien sûr, y a pas de problème.
On va venir.
C'est parti.
T'as pris ma carte.
Une carte de quoi?
Il était derrière moi, je crois qu'il m'a pris avec mes cartes 6 jours.
Votre carte de séjour.
J'ai le fouille encore.
Ah, oh, oui, d'accord.
Descendez, monsieur.
Je l'ai sorti
descendez,
tout à l'heure.
Descendez, on va vérifier. Prenez votre nom.
Eh oui, hein, c'est pour ça que j'ai fouillé. Vous savez qu'il m'a touché.
Qui, moi? Moi? Ah d'accord, ben, contrôle-moi alors.
Pas de soucis.
Toi, contrôle-moi.
Doucement. On va vérifier ça. Monsieur, on va faire une petite palpation. Vous n'avez rien de dangereux sur vous?
Chez moi, parce que là, ça me...
Il n'y a pas de problème. D'accord. Pour l'instant, on est en simple contrôle. Enlevez les mains des poches. Rien de dangereux sur vous? Vous pouvez me sortir ce que tu as dans la poche, s'il vous plaît. Allez, venez avec nous, on va vérifier ça. On vous raccompagnera sur le train d'après, il n'y a pas de problème. Le jeune homme, je pense qu'il a essayé peut-être de faire soit un portefeuille, soit un téléphone dans la poche du monsieur qui avait posé la veste. Là, l'infraction, on ne l'a pas constatée. Par contre, comme il n'est pas documenté, on va approfondir au poste de police. On va déjà voir si effectivement il a un titre de séjour pour revenir en France. S'il n'a rien, il sera réadmis en Italie. Voilà.
Là, vous étiez combien d'agents de la police aux frontières pour contrôler ce train qui ressemble à un TER, même si c'était peut-être un train italien?
Là, on était 6 collègues CRS, plus 2 agents de la police aux frontières, plus notre chef, donc 3 agents de la police aux frontières. Voilà, donc nous, on est un peu plus spécialisés dans ce qui est faux documents, usage frauduleux de documents administratifs, toutes ces choses-là, parce qu'il y a un grand nombre de documents assez complexes. Voilà quoi. En général, on a beaucoup de personnes qui essayent de passer dans les premiers trains. Le fait qu'ils fassent nuit aussi, ils essayent de se cacher. Il y a moins de monde aussi qui contrôle en gare là-bas, moins de présence, donc ils essayent plutôt sur les premiers trains.
Quand vous dites là-bas, c'est Vintimille. Exactement. Parce que les trains arrivent de Vintimille. Ici, Menton-Gare avant, on est dans la première gare en arrivant d'Italie. Donc c'est on ça. Est vraiment à l'est de Menton. Et vos collègues de la police aux frontières italienne sont aussi sur les quais de la gare.
Sur les quais de la gare, font du contrôle à Vintimille. C'est un double contrôle. Plus on essaye de faire également des patrouilles mixtes. Donc un mélange de policiers français et italiens, soit à Vintimille, soit également à Menton-Gare avant.
François-Xavier Loche, directeur de cabinet du préfet des Alpes-Maritimes. Combien d'hommes avez-vous déployés sur le territoire, à la frontière, pour les contrôles?
Alors, je vais beaucoup vous décevoir, mais on n'a vraiment pas l'habitude de donner des chiffres, très simplement parce que ce dispositif, il est évolutif et il évolue tous les jours, vraiment. Il évolue par rapport au flux migratoire auquel nous sommes confrontés. Vous trouvez des policiers aux frontières, ceux que vous avez vus à Menton, mais vous trouvez également des policiers de la sécurité publique, des gendarmes nationaux, des douaniers. Et donc, vous voyez, c'est vraiment beaucoup de forces qui participent à la tenue de la frontière. L'année dernière, dans ce département, ce sont quasiment 27 000 personnes, étrangers sans titre, qui ont été contrôlées à cette frontière. Et parmi eux, 90 % tentaient de franchir cette frontière par le train.
Notre train avance dans la vallée de la Roya et on commence à la découvrir petit à petit, et le paysage se fait italien.
Le paysage, oui, il se fait italien par les églises, par l'architecture, hein, par les églises baroques notamment. Mais c'est vrai que longtemps cette vallée était italienne. Donc évidemment, il y a des accents italiens, mais plus qu'italiens au fond, parce que l'Italie, qu'est-ce que ça veut dire? C'est très récent quand même. C'est vraiment un particularisme. C'est la vallée de la Roya, qui d'ailleurs est très unie à l'autre côté, donc maintenant en Italie, parce qu'on va aborder à la vallée des Merveilles, puis le Mercantour, et de l'autre côté, en Italie, ça va s'appeler les Alpes Maritimes. Et en fait, c'est une unité géographique et historique. Donc plus qu'italien, en fait, c'est vraiment une sorte de petit pays en soi, qui englobe les deux côtés de la frontière, ce qui est maintenant l'Italie et ce qui est maintenant la France.
Et donc, c'est une frontière qui est en réalité, entre l'Italie et la France, qui est assez fermée. Les points historiques de passage, ils sont plutôt situés sur la côte, sur l'extrême pointe de cette montagne qui, encore une fois, va dans la mer, et ils sont à Menton. C'est par exemple le passage Saint-Ludovic, qui est vraiment tout en bord de mer, ou un passage qui est juste au-dessus, qui s'appelle Saint-Louis, et qui est vraiment dans Menton. Et mis à part ces passages, les passages vers l'Italie sont extrêmement rares. Il y en a un qui est du côté de Sospel, qui est une petite route de montagne qui vient vers l'Italie et qui passe par un carrefour qui s'appelle Saint-Gervais. Et puis, en réalité, ce point commande toute la vallée de la Roya. Et puis, vous avez ce fameux tunnel de Tende. Je vous invite à aller le voir, c'est un très vieux tunnel à une seule voie. Après, ce sont des toutes petites routes, en réalité, qui irriguent ce réseau et qui sont très très peu fréquentées.
Yves Kinossian, nous sommes ici en contrebas du pont Saint-Louis, de l'ancienne douane. Notre regard sur la droite porte sur le large, évidemment, le large de la Méditerranée. Et si on regarde devant nous, à quelques dizaines de mètres d'ici, nous sommes en Italie.
C'est en grande partie lié à la géomorphologie du site, puisque nous nous trouvons ici au point de conjonction entre les Alpes depuis... Ce qui regarde le territoire français depuis le Léman jusqu'à la Méditerranée, qui plonge à Menton dans la Méditerranée même, qui explique que l'on est là une frontière naturelle.
Alors, y a-t-il eu une volonté réellement, depuis le premier traité qui fixe une première frontière entre ce qui était à l'époque le royaume de France et le royaume de Piémont-Sardaigne, qui n'était pas encore l'Italie, de coller à une frontière géographique ou géologique, puisqu'on parle des Alpes?
Oui, vous avez raison. C'est même un cas assez particulier en Europe, dans cette deuxième moitié du XVIIIe siècle, alors que la reconnaissance d'un territoire avec sa souveraineté est fondée soit sur la conquête, avec la guerre, soit sur la défaite. Pour une fois, entre les États sardes et d'autre part le Royaume de France, on convient d'un accord pour rationaliser la frontière. Et en particulier permettre aux habitants, et je veux parler des frontaliers, de pouvoir se déplacer dans des conditions qui ne soient pas entravées en permanence par des contraintes liées en particulier aux effets de la douane. Et donc, par le traité du 24 mars 1760, premier traité de Turin, on convient d'un traité entre les États sardes et le Royaume de France pour rationaliser cette frontière et s'inspirer autant que faire se pouvait de la géomorphologie pour essayer de conduire une logique d'ordre géomorphologique. On a là pour la première fois une carte qui précède le traité, qui va même jusqu'à l'interrogation des populations frontalières pour essayer de percevoir ce que serait un mieux en matière de dessin de la frontière.
Et aussi, alors, les révolutionnaires sont venus dans ce pays et ont menacé les habitants. Enfin, il y a eu des... Et donc, il y a eu des fameux barbets qui étaient, au fond, contre les Français. Et qui, ensuite, une fois tout ça un peu apaisé, sont restés un peu des bandits de grand chemin, quoi. Donc, les barbets, il y a toute une légende autour de ces gens qui connaissaient, alors, eux, parfaitement le pays, qui pouvaient, faire la nique à la soldatesque, enfin... C'est assez fort aussi. C'est assez fort pour expliquer le particularisme de ce pays qui vient de loin. C'est vraiment... non seulement il a été italien, mais il n'a jamais été français, au fond. Jusqu'à une date très récente.
Lorsque le traité, le second traité de Turin, du 24 mars 1860, cette fois-ci, est conclu, il s'agit d'une contrepartie, essentiellement, de l'aide apportée par l'empereur des Français, au roi de Piémont-Sardaigne pour lutter contre l'hégémonie autrichienne. Et donc, la contrepartie, c'est précisément le don, en quelque sorte, de la Savoie et de Nice à l'Empire français. Moyennant un cas un peu particulier quand même, au XIXe siècle, et qui est le plébiscite. C'est-à-dire qu'on pose la question aux populations de leur volonté d'adhésion à l'annexion.
Il est un peu étrange, un peu égaré, ce pays de l'extrême sud-est du territoire, qui s'étire au nord de Menton, sur une soixantaine de kilomètres, et escalade lentement les Alpes, laissant juste la place à quelques villages, une route sinueuse et une voie de chemin de fer escarpée. Il est un peu étranger, un peu oublié, ce pays annexé à la France en 1860 comme partie du comté de Nice, et dont quelques communes restées dans le giron du roi Victor Emmanuel II comme réserve de chasse devront attendre 1947 pour rejoindre la République.
On ne sait pas où commence l'Italie, peut-être au milieu d'un tunnel. Le pays ferme les yeux et devient autre. On voit des vaches rouges et rouge est le feuillage. On frôle des précipices avec la rivière qui s'appelle la Roya tout en bas. Par la montagne, on éprouve que Nice a longtemps été liée à Turin et à la Savoie. Rapprochement qui, dans mon esprit, forme un triangle dont j'essaie de mesurer les côtés, de trouver les sommets. Avant d'aller à l'école, j'étais fascinée par le mot de géographie, sans savoir qu'il recouvrait l'écriture de la terre, son dessin. Nous voyageons entre les sapins, les châtaigniers, nous rencontrons parfois des pentes herbues où les fruits sont répandus sous les arbres. J'avais bien raison d'être fascinée par le mot de géographie, par le dessin qu'on imagine entre les villes, les paysages et les frontières. Je touche à la résolution du triangle que j'ai inventé.
Yves Kinossian, directeur des archives départementales des Alpes-Maritimes, même en temps de paix, cette frontière a été surveillée, militarisée, contrôlée.
Oui, vous avez parfaitement raison. Le territoire des Alpes-Maritimes est méconnu, sans doute, pour ce qui est devenu son patrimoine aussi, qui est un patrimoine militaire. Et une des craintes à travers la frontière, c'est la possibilité d'une invasion. C'est la raison pour laquelle la proximité en particulier d'une ville, chef-lieu de département comme Nice, de la frontière, fait que Nice a la qualité de camp retranché. Il lui faut donc avoir une ceinture de forts qui la protège contre une possible invasion, invasion du côté naturellement italien, qui est le risque premier. De là, encore une fois, cet enjeu militaire premier, mais qui n'est pas exclusif. L'enjeu de la frontière, c'est aussi celui du contrôle des personnes. Un contrôle qui se fait de deux manières, à travers le volet douanier, et un volet qui est celui plus lié à ce qu'on appelle la sûreté et plus tard la sécurité nationale, qui fait qu'on aura une police chargée de surveiller les entrées et les sorties. Eh bien, on est typiquement dans le cas de dispositions qui sont prises pour pouvoir contrôler des personnes susceptibles de mettre en péril la sécurité publique. Et en cela, il y a effectivement une très grande continuité avec le travail de la police aux frontières aujourd'hui.
François-Xavier Loche, directeur de cabinet du préfet des Alpes-Maritimes, cette frontière entre la France et l'Italie est censée, depuis 1993, depuis l'application des accords de Schengen, ne plus en être une formellement, en tout cas ne plus faire frontière. Quelles sont les étapes de son rétablissement progressif depuis quasiment un an, en fait ?
Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que, effectivement, le principe de libre circulation s'applique totalement à cette frontière. Il s'est appliqué totalement jusqu'à une date extrêmement précise, qui est celle du 13 novembre dernier, parce qu'il y avait un événement international qui était organisé dans notre pays et qui s'appelle la COP21. Et puis malheureusement, dans la nuit du 13 au 14, on les a encore renforcés dans le cadre de l'état d'urgence et avec ces attentats tragiques de Paris. Depuis lors, effectivement, il y a des contrôles qui sont possibles sur tous les axes qui traversent cette frontière. Ça peut être des axes ferroviaires, ça peut être des axes routiers. Je veux dire également que nous dialoguons au jour le jour avec nos amis italiens, les préfets, que ça soit donc le préfet des Alpes-Maritimes ou la préfète d'Imperia se voit extrêmement régulièrement. Et puis, vous avez des policiers français, italiens, qui se parlent tous les jours sur ces questions-là. Et donc, si vous voulez, cette frontière, c'est aussi un lieu d'échange journalier avec nos amis italiens sur toute une série de sujets. Dans le cadre du flux migratoire que nous connaissons ici depuis le printemps 2014, c'est pas quelque chose de récent, mais je vais vous en citer d'autres. La gestion de cette autoroute A8 qui traverse le département avec un axe vital et majeur. On a des tunnels à gérer en commun, notamment un tunnel qui est pile sur la frontière, il s'appelle le tunnel de la Giraude. J'ai souvenir, par exemple, l'année dernière d'un feu de forêt qui s'est déclaré à Menton et qui menaçait de passer en Italie. Donc là, il y a dû y avoir des échanges. Donc vous voyez, il y a des sujets de flux ferroviaire. L'interruption du flux ferroviaire côté français contraint le côté italien. Quand c'est en Italie, ça contraint le côté français. Donc les sujets d'échange sont extrêmement nombreux avec l'Italie.
Alors là, le train va très très doucement. Parce qu'en fait, les travaux ne sont pas encore tout à fait réalisé, il y a des petits problèmes sur cette voie. mais c'est une ligne absolument fantastique. Elle est assez méconnue, mais c'est les Italiens pour le coup qui l'ont construite, qui ont fait un ouvrage d'art tout simplement magnifique. Elle suit la route du sel qui déjà était une route absolument improbable, qui est dans un paysage extrêmement montueux, extrêmement difficile. La route du sel était un exploit et qui est redoublée par cette ligne qui est absolument improbable. Il y a des viaducs qui sont très hauts, mais surtout, alors moi, quand j'ai pris la ligne la première fois, je ne savais pas du tout qu'elle comportait des tunnels, alors hélicoïdaux, en fer à cheval. Bon, à l'époque, j'avais vu une petite chapelle qui était que je voyais par la vitre, et puis tout d'un coup, je la voyais, mais comme de plus haut. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et en fait, tout simplement, le contrôleur nous a dit que les tunnels, c'était un tunnel, on venait de franchir un tunnel hélicoïdal, qui est quand même une chose incroyable. Mais moi, ce qui me fait, évidemment, c'est aussi le mot qui me fait rêver. Hein. C'est la route du sel, je l'imagine, comme vous savez, comme le petit pousset qui laisse tomber ses petits cailloux, je l'imagine bordé de sel, ce qui est évidemment complètement improbable. Mais il n'empêche qu'elle a été aussi créée pour amener le sel de Nice, du cours Saleya, qui venait par bateau du Var, qui était déposé à Saleya et qui montait sur des ânes, etc., sur des mulets, jusqu'à Turin. Mais moi, évidemment, je l'imagine du coup cette route blanche et lumineuse à cause du sel qui a été transporté en elle. Alors là, vous voyez, on arrive à Saorge. Évidemment, on est dans le tunnel, mais on pouvait voir juste avant le monastère, dédié un peu à la littérature, puisque des écrivains pouvaient y résider jusqu'à il y a peu de temps.
Parce que la frontière est un lieu qui inspire beaucoup les écrivains, qui inspire la littérature et qui vous inspire, vous, Marilyn Desbiens.
Oui, d'autant que cette frontière est très émouvante. On ne sait pas bien où on est ici, hein, quand même. Est-ce que vraiment on est encore en France, ici ? Est-ce qu'on est en Italie ? Enfin, où est-ce que ça s'arrête ? Où est-ce que ça commence ? Oui, en effet, on est dans la frontière. On est pétri. Je pense que toute l'histoire de cet endroit est pétrie par des histoires de frontières, par des histoires de gabelou, par exemple, de trafic, de migrants aujourd'hui. Si on suit la route depuis l'Italie, c'est très long. Alors, et puis on passe des cols qui sont vraiment très durs. Hein. Les cyclistes connaissent par exemple le col de Braus, qui est connu pour ses virages absolument épouvantables, mais c'est vraiment à pied. Alors peut-être qu'on peut prendre des raccourcis, mais encore que les raccourcis sont très dangereux, justement. Et puis évidemment, quand on est migrant, on ne connaît pas la route. Donc c'est quand même un périple très risqué. Et surtout qui se solde à l'arrivée par une arrestation, quoi. J'ai l'impression qu'ils ont peu de chances d'arriver jusqu'à Nice.
Commandant Estève, ces migrants qui veulent gagner la France, est-ce qu'il vous arrive d'en trouver à pied dans les petits chemins de montagne ou le long de cette voie ferrée, mais qu'ils auront suivi par leurs propres moyens?
En effet, les trains circulent jusqu'à 23h pour arrondir le soir, et puis la nuit, un certain nombre de migrants tentent le passage à pied. Alors depuis Vintimille, qui est à 12 km de Menton, soit en suivant la route nationale, soit en suivant la voie ferrée. Pour le reste, et pour les chemins de montagne, d'anciens chemins, entre guillemets, un peu mythiques, avec des noms qui font peur, comme le Pas de la Mort, aujourd'hui ne sont plus très fréquentés. Non, les migrants vont au plus rapide. Donc la voie ferrée et puis le bord de mer.
La vallée de la Roya, c'est une vallée qu'on appelle vallée des merveilles, qui peut recouvrir des réalités plus difficiles. C'est une vallée où vous retrouvez régulièrement des passeurs ou des migrants qui tentent de rejoindre la France.
Oui, alors la vallée de la Roya a cette spécificité. Donc elle part de Vintimille et elle monte jusqu'au tunnel de Tende. Et elle a cette spécificité d'être parfois du côté italien et parfois du côté français. Voilà. Et avec, je vous dis, cette unité mixte judiciaire franco-italienne qui mêle l'unité judiciaire de Menton et celle de la Polizia di Stato de Vintimille, on voit les rabatteurs, on voit le travail des rabatteurs qui contactent les clandestins dans les jardins, et puis on voit les véhicules arriver, le chargement, et ensuite filature. Et en effet, ces véhicules empruntent la vallée de la Roya. Et ensuite bifurque sur la gauche, donc en direction de Sospel, où nous interceptons et interpellons les passeurs. Voilà.
François-Xavier Loche, ces passeurs existent parce que la frontière est contrôlée et que vos hommes sont partout.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Ils existent bien au-delà de ces contrôles à la frontière. Je prendrais pour exemple le fait que depuis le début de l'année, nous avons également démantelé 5 filières. Une filière par rapport à un passeur, c'est quelque chose qui est plus complexe. C'est en fait un réseau de passeurs. Cette perversité humaine qui est de faire payer pour faire passer une frontière, elle s'étend en réalité bien au-delà de la frontière des Alpes-Maritimes. Elle peut partir, par exemple, des côtes libyennes, puisque c'est le flux qui concerne cette frontière, hein, qui remonte par la botte de l'Italie. Elle peut concerner également des transits qui sont internes à l'Italie. Et chez nous, elle concerne également des passages qui vont beaucoup plus loin, qui vont jusque dans le nord de la France. Donc en réalité, le sujet de ces passeurs et de ces filières, il est beaucoup plus large que celui des Alpes-Maritimes. Donc c'est un sujet qui est absolument prioritaire. S'il y a bien une priorité qui est donnée aux forces de police et de gendarmerie dans ce département, c'est de lutter contre ces personnes qui font profit, encore une fois, de cette détresse humaine.
René Daon, on était dans le train de la vallée de la Roya avec Marilyn Desbiol et on s'est arrêté ici en gare de Saint-Dalmas de Tende. Il n'y a personne sauf nous sur les quais, mais surtout la gare en elle-même, le bâtiment est extraordinaire.
Il est extraordinaire par son architecture. Nous étions ici à la frontière franco-italienne, d'avant la reprise, entre guillemets, de ce territoire par la France en 1947. Cette frontière a nécessité de la part de Mussolini, qui avait l'esprit de grandeur et qui souhaitait montrer à la France où s'arrêtait son territoire. Mussolini a fait de cette gare une gare mussolinienne dans toute sa splendeur, mais qui effectivement était une gare internationale. Alors que maintenant, c'est vrai que là nous sommes dans un abri-train tout bétonné de 6 mètres carrés, et à côté il y a ce bâtiment de 4 étages et de 200 mètres de long, etc. Sachant qu'il y a 15 ans, avant que tout soit muré, il y a eu des squats de néo-ruraux, on peut les appeler comme ça, qui avaient une autre idée de ce qu'on pouvait faire d'un bâtiment comme celui-là.
En fait, c'est une gare qui est à peu près équivalente à une gare parisienne, sauf qu'elle se trouve ici dans un village de la vallée de la Roya qui compte combien d'habitants ?
La vallée de la Roya en elle-même, il y a au dernier recensement 4500 ou 5000 habitants.
Mais Saint-Dalmas-de-Tende ?
Saint-Dalmas-de-Tende, entre 500 et 700 habitants, avec un collège. Ce collège, c'est ce qui fait en sorte que cette gare a encore une utilité, parce qu'en fait, aussi bien l'État français que la SNCF considèrent que la ligne Nice-Tende est une ligne TER qui se termine à Tende. Et à ce titre, comme toutes les lignes TER qui sont des queues de lignes, si vous voulez, elles sont laissées à l'abandon au profit des grandes lignes et en particulier des TGV. Pour nous, notre ligne, c'est une ligne que l'on voudrait voir redevenir internationale entre le Piémont, la Ligurie et la région PACA. Donc nous disons, pourquoi ne pas utiliser cette ligne et rendre à la vallée une vie autre que celle-ci. Si vous vous baladez dans la vallée, c'est vallée morte.
René Daon, vous nous avez parlé en tant que porte-parole du comité de défense franco-italien de la ligne de vie Nice-Breil-Tende-Cuneo-Vintimille. Je crois que j'ai à peu près bien retenu. Mais je voudrais que vous nous parliez maintenant, que vous enleviez cette casquette-là et que vous nous parliez en tant que vous êtes au cœur d'un dispositif qui existe ici dans la vallée de la Roya, un dispositif d'aide et de soutien aux migrants. Donc vous les voyez arriver à pied, réellement. Donc, parce qu'on nous dit souvent qu'il n'y en a pratiquement plus des migrants qui tentent le passage à pied.
Non, c'est faux, absolument faux. Il y en a beaucoup. Et alors, il y a quelque temps, il y avait essentiellement des jeunes hommes, avec au passage quelques mineurs, mais garçons. Maintenant, on voit arriver des jeunes couples et on voit arriver des familles.
Qu'est-ce que vous faites, vous, et tous ceux qui les soutiennent? Vous les accueillez chez vous?
Il s'agit simplement, dans un premier temps, notre réaction, elle est simplement de type humanitaire. On ne laisse pas des gens au bord d'une route en plein hiver. Et donc, qu'est-ce que l'on fait? On les accueille là où on peut, on essaye d'apporter un petit peu de nourriture, mais c'est tout à fait à une échelle, familiale, individuelle. Il y a la personne qui prend conscience et la personne qui ne prend pas conscience de ça. Sauf que nous assistons maintenant à une mise en place de frontières qui est ségrégationniste. Il est fréquent qu'à la gare de Garavant, il y a une escouade de policiers qui arrêtent le train et ils contrôlent tout le train, ils font descendre toutes les personnes suspectes. Et pour nous aussi, avec la Ligue des droits de l'homme et avec Amnesty, on avait fait une journée témoignage de la chasse aux migrants et par rapport aux faciès, simplement, puisque nous étions mis à côté. Et on avait fait le petit jeu de voir qui descendait du train et qui ne descendait pas. On avait fait des photos, etc. Et comme la police s'était rendue compte de notre petit jeu, ils avaient pris la poudre d'escampette. Parce que c'était pas très, très à leur honneur, quoi. Et c'est pas très beau, quoi. On avait l'impression d'être arrivé aux heures sombres.
Vous ne vous étiez pas fait contrôler ?
Non.
Tout le train a été contrôlé ?
Voilà, c'est ça.
Donc personne ? Pas personne, de personne susceptible d'être contrôlé par nous ?
Voilà, susceptible d'être contrôlé par nous. Tous les passagers sont documentés, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Donc on va attendre le prochain train.
Vous étiez où avant de venir ici à Menton, avant septembre ?
Alors, j'étais sur Paris en bac métro. Donc, je m'occupais de tout ce qui était vol à la tire dans le métro, pickpocket, voilà, vol à l'arrache, ce genre de choses.
Aujourd'hui, vous avez affaire à des migrants, vous les contrôlez, vous les interpellez, vous vérifiez leurs papiers. Quel rapport est-ce que vous avez avec eux? Est-ce qu'il est du même ordre que ceux... Que les malfrats que vous interpelliez dans le métro parisien?
C'est effectivement totalement différent. Là c'est du contrôle, c'est du contrôle administratif. Voilà, c'est des gens qui fuient leur pays, qui veulent arriver en Europe, qui certes sont pas documentés, mais qui n'ont pas commis aucun délit. On n'a pas du tout les mêmes rapports que sur des délinquants ou des gens qui agressent les personnes, qui volent les gens. C'est totalement différent.
Est-ce qu'il vous arrive d'avoir même de la compassion?
Bien sûr, je fais mon travail, mais après, effectivement, quand on voit des gens qui sont quand même en détresse, qui fuient pour une partie la guerre ou ce genre de choses, forcément, on a de la compassion. Après on essaye de faire notre travail, le mieux possible, mais ça n'empêche pas de les considérer, de faire les choses au mieux.
Vous en avez vu beaucoup des migrants?
Alors juste à côté de chez moi, un peu bien plus bas dans la vallée, mais toujours sur la route du sel, oui, un matin, très tôt, vers 5h du matin, j'ai vu des migrants, une quinzaine peut-être, au bord de la route, assis sur le petit muret de pierre, que je trouve d'habitude charmant, mais qu'il était beaucoup moins parce qu'ils étaient entourés de policiers, de voitures avec des sirènes. Et ils étaient en train de se faire arrêter.
Marilyn Desbiol, vous aviez 3 semaines quand vos parents à vous se sont installés dans l'arrière-pays niçois, et pour autant... Écrivez-vous, vous avez longtemps été considérés comme les étrangers, comme on disait à l'époque.
Ben oui, c'est vraiment le particularisme de toutes ces vallées qui ont évidemment des difficultés à communiquer à cause de ce paysage très montueux pendant très longtemps. Moi, j'habitais un village qui s'appelait Levens. Vraiment, c'était un village très difficile d'accès. Et nous, on avait... Alors nous, c'était drôle parce que mon père s'appelle Desbiol, évidemment, il est français. Et nous, on faisait figure vraiment d'étrangers parce qu'on venait de Savoie. C'était pas seulement des paroles, on nous a même dessiné sur notre garage, par exemple, des balais, avec du balai les étrangers. C'était quand même quelque chose d'assez fort, vous voyez.
Donc si vous, qui veniez de Savoie, étiez considéré et traité, entre guillemets, comme des étrangers, comment peuvent l'être ou être considérés aujourd'hui ceux qui viennent d'Érythrée, du Soudan, de Syrie, de Libye?
C'est sûr, aujourd'hui, je pense que quand même les choses ont beaucoup changé. Il y a beaucoup de gens qui se sont installés, par exemple, des ce qu'on appelle des néo-ruraux. Alors tout ça, ça a un peu fait bouger les lignes, quand même. Ça a un peu choqué les gens, et puis en même temps, ça les a ouverts, Dieu merci. Ce qu'il ne faut pas oublier, ce qu'on ne devrait jamais oublier, c'est qu'on est toujours l'étranger de quelqu'un. Voilà, et on devrait avoir ça en tête quand on a peur des migrants. C'est que on peut très bien, un jour ou l'autre, être soi-même un migrant. Moi, j'ai tellement ça inscrit en moi que je vais pas dire migrante parce que ce serait un peu impropre, mais je me sens étrangère. Oui, moi par exemple, souvent dans les collections de mon éditeur, je me sens du côté des écrivains étrangers, voyez. C'est vraiment un sentiment que j'ai de ne pas être un écrivain français. Parce que peut-être aussi j'habite à l'extrême sud-est. Ça compte.
Décider qui vous allez contrôler, c'est très aléatoire.
On essaie de faire de l'aléatoire, tout à fait. On essaie de contrôler un certain nombre de personnes à l'intérieur d'un train. On ne peut pas contrôler tout le monde, mais on essaie de contrôler un maximum de personnes. Bon, après, il y a aussi l'habitude. Il y a certaines personnes, malheureusement, on sait qu'on va avoir affaire à notamment des Afghans, des Érythréens, des Soudanais. Donc automatiquement, on se dirige aussi vers ces personnes-là, bien évidemment.
Comment on évite justement de faire du contrôle au faciès?
On essaie de contrôler un maximum de personnes, peu importe le faciès, justement. On essaie de, parce que bon, c'est évident qu'on ne peut pas contrôler que des gens de des personnalités étrangères, parce que même parmi des gens, on va dire des gens de couleur blanche comme nous, on peut trouver aussi des criminels de droit commun. On peut passer des gens aux fichiers nationaux de chez nous et trouver des fiches de recherche ou ce genre de détails. Puis bon, il n'y a pas un faciès particulier non plus. Hein. Donc, voilà.
Vous disiez que vous arrivez de trouver des migrants cachés, oui, dans le train.
Oui, oui, oui.
Où ?
Il y a des locaux techniques. C'est pour ça que nous avons les clés pour accéder à certains locaux techniques. On vous montrera tout à l'heure. Ils arrivent à se cacher dans des petits compartiments. Et c'est des fois 2-3 personnes. Ils se mettent sous les banquettes allongées au fond. Il ne faut pas qu'on les voit. Sous les soufflets. Parfois même à l'extérieur, ça arrive entre deux wagons. Ça arrive.
Ouais. Dans des endroits aussi dangereux, j'imagine, électrifiés.
Tout à fait. Ouais, effectivement, c'est bon. Ils essaient de passer et tenter leur chance. Bon, il y en a qui doivent bien réussir à passer quand même, hein, puisqu'on en retrouve après sur Calais. Donc, mais de toute façon, ce sont des gens opiniâtres. Hein. Ils sont venus à pied de leur lointain pays. C'est pas une frontière qui va les empêcher de passer.
Les étrangers en situation irrégulière que nous interpellons dans le département des Alpes-Maritimes ces derniers mois sont essentiellement de nationalité soudanaise. Nous avons également des ressortissants de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons, sur les 4 premiers mois de l'année 2016, 70 nationalités différentes qui ont été représentées parmi l'ensemble des personnes interpellées.
Est-ce qu'il vous arrive, en gare de Menton, gare avant, de revoir des migrants que vous aviez interpellés plusieurs semaines ou plusieurs mois auparavant?
Alors oui, ça peut arriver. Maintenant, la quasi-totalité des personnes que nous interpellons à Menton se trouvent sans document d'identité. Donc il n'est pas rare qu'une même personne soit contrôlée 2 fois ou 3 fois en nous donnant à chaque fois une identité différente, de telle sorte qu'il est pas aisé de retrouver trace de son premier passage. Mais il peut arriver effectivement qu'une personne soit contrôlée plusieurs fois en gare de Caravan.
Passport?
Non.
Identity card? No? Come with me.
Your nationality? Sudan? Eritrea? Eritrea? Okay. Come with me. Take your bag.
Your age?
16.
16.
Je se disais érythréen.
Voilà. A priori mineur, donc on va vérifier au poste.
Ok. Come with me. Take your bag, please.
Monsieur le directeur départemental de la police aux frontières, ici dans les Alpes-Maritimes, on vous a rejoint à un ancien poste de frontières qui est aujourd'hui vos bureaux. Et c'est ici que vous avez conduit les 2 jeunes érythréens qu'on a croisés dans le train tout à l'heure et que vos collègues ont interpellés.
Alors nous sommes ici au siège du service de police aux frontières de Menton. Donc c'est effectivement ici que sont traitées toutes les procédures qui font suite aux interpellations d'étrangers en situation irrégulière réalisées sur le vecteur routier ou le vecteur ferroviaire. Donc les 2 personnes qui ont été interpellées dans le train tout à l'heure en gare de Caravan, leur situation administrative est vérifiée et ensuite il y a la mise en œuvre de la procédure de non-admission qui consistera d'ici quelques instants au renvoi en Italie après contact avec les autorités italiennes.
Donc c'est-à-dire au renvoi à quelques mètres d'ici en fait, on voit l'Italie est en face de nous et pas loin.
À l'Italie se trouve effectivement à quelques dizaines de mètres du service de police aux frontières de Menton.
Donc vous les raccompagnez physiquement en Italie. Est-ce qu'ils sont auditionnés avant? Est-ce que vous leur posez des questions?
Alors nous sommes actuellement dans le cadre du rétablissement du contrôle aux frontières. Donc nous avons une procédure simplifiée. C'est la procédure de non-admission qui se gère avec des formulaires administratifs type et qui nous permettent le renvoi en Italie immédiatement de toute personne qui rentre sur le territoire en situation irrégulière.
Marilyn Desbioles, vous en tant qu'écrivain,
Que vous évoque cette frontière, alors en tant qu'écrivain, mais aussi en tant que femme qui avait donc eu des grands-parents italiens et des grands-parents qui vivaient près de la frontière suisse de votre côté paternel.
C'est vrai. C'est vrai, c'est la frontière, au fond, elle m'habite complètement. C'est vrai qu'en Suisse aussi, enfin, la frontière suisse, j'ai des grands souvenirs avec ma grand-mère. Elle jouait un peu à nous faire peur, mais de devoir passer par des petites routes pour éviter la frontière, parce qu'elle avait acheté du chocolat ou je ne sais quoi, ou peut-être d'autres choses que j'ignore. Mais précisément, encore une fois, l'écriture, c'est vraiment une tentative de faire le lien avec toutes ces choses, toutes ces frontières... Que je n'ai pas su pendant longtemps. Je ne savais pas pendant longtemps qu'elles étaient liées. Voilà. Et où je pensais que tous ces gens étaient éminemment différents. En vérité, non, ils étaient tous. Ils dansaient tous sur le fil, quoi.
Quand on est ici sur les quais de la gare de Menton-Garavant, Patrick Estève, et qu'on regarde tout près d'ici, en fait, à quelques mètres de là où tous les jours s'arrêtent 30, 40 trains qui viennent d'Italie et où sont interpellés parfois une dizaine de personnes par train, juste ici nous fait face la maison d'un exilé politique célèbre qui s'est installé à Menton au début du siècle dernier.
Oui, en effet, vous parlez de la maison de Vicente Blasco Ibáñez, un écrivain espagnol connu mondialement. Son roman phare, c'est Les Quatre Cavaliers de l'Apocalypse. Alors oui, Vicente Blasco Ibáñez était un exilé, puisqu'il était en délicatesse avec la monarchie espagnole. Voilà, mais on pourrait en dire encore davantage sur Blasco Ibáñez et son œuvre.
Et vous n'êtes pas là pour ça,
a priori. Je ne suis pas là pour ça, non, puisque nous parlons aujourd'hui de frontières et d'immigration irrégulière.
Et vous êtes là, non pas en votre qualité de féru de littérature que vous êtes, mais de commandant adjoint de la police aux frontières ici à Menton. Vous êtes le commandant Patrick Estève. Est-ce que, lorsque vos fonctionnaires ou vous interpellez ici dans les trains des migrants en situation irrégulière, est-ce que vous vient ces exemples d'exilés politiques qui se sont installés ici à Menton, qui en ont fait une œuvre?
Alors, y penser, je dirais, de manière ciblée ou précise, pas véritablement, mais ce qu'il faut dire, c'est que l'immigration qui est ici contrôlée à Menton, en gare de Garavant, par la police aux frontières, est une immigration de passage. Voilà. Donc quand on parle de Blasco Ibáñez qui s'était installé à Menton, ou quand on parle par exemple de sa voisine Catherine Mansfield, qui était également une nomade du Sud, comme on pourrait la qualifier.
Écrivain néo-zélandaise, mondialement connue elle aussi pour ses nouvelles.
Donc là, ce sont des personnes qui ont fait souche à Menton, alors que l'immigration dont nous parlons ici à la gare de Garavant est une immigration de passage. Voilà. Nous n'avons pas à Menton d'installation de ces populations qui sont en mouvement, mues par l'espoir, qui est le terme et le mot central de toute, je crois, de toute migration, de toute immigration, fût-elle irrégulière.
Est-ce que vous avez le temps d'en parler de temps en temps avec eux, d'échanger avec eux, de savoir quel est leur parcours?
Alors oui, on arrive malgré tout, pour ceux qui parlent un peu anglais, à échanger et à comprendre, mais ce sont toujours les mêmes moteurs. C'est toujours la même chose, c'est de quitter l'horreur. Les Syriens aujourd'hui quittent un pays qui est détruit totalement, où voilà, ils essayent de sauver le peu de choses qu'ils ont, mais surtout leur vie et celle de leur famille. Donc,
c'est-à-dire, est-ce que à chaque fois que de nouveaux collègues prennent leur fonction ici, vous devez leur rappeler qu'ils n'auront pas ici affaire à des délinquants au sens où on l'entend habituellement, mais des personnes en situation irrégulière, certes, qui n'ont pas commis d'autres délits que celui-ci?
Vous avez raison, c'est un travail que nous faisons au départ, au moment où de nouveaux fonctionnaires sont affectés à la police aux frontières de Menton, en expliquant, bien sûr, que... Alors, quand vous dites que ce ne sont pas des délinquants, Ce sont des personnes qui, malgré tout, sont en situation irrégulière et qui sont dans une situation délictuelle, qui est poursuivie pénalement. Mais il est vrai qu'en général, l'approche de l'immigration irrégulière n'est pas celle qu'on peut avoir dans un commissariat de sécurité publique face à une délinquance violente. Même si il faut garder toujours présent à l'esprit qu'à un moment donné, les choses peuvent évoluer et que l'attitude de tel ou tel migrant à un moment donné peut changer. Donc oui, les policiers de la PAF sont sensibilisés à l'approche de ces populations, mais en même temps, il est important d'être vigilant et de savoir détecter au milieu de ces populations la présence éventuelle d'individus qui seraient dans un autre état d'esprit.
Donc là, nous sommes dans la salle de retenue et les personnes qui sont interpellées attendent dans cette pièce qu'on les renvoie en Italie dans le cadre de la procédure de non-admission ou d'autres suites qui peuvent être envisagées en fonction de leur situation administrative.
Est-ce qu'a priori ces messieurs ont compris ce qui était en train de leur arriver ?
Oui, tout à fait. Ils savent qu'ils sont en situation irrégulière sur le territoire national et nous les informons la plupart du temps en anglais des suites administratives qui leur sont réservées.
La pièce est ameublée de manière sommaire, des grands bancs métalliques et ces personnes dorment. En général, elles peuvent rester jusqu'à combien de temps ici ?
Très peu de temps ici, hein. C'est vraiment le temps nécessaire à la réalisation de la procédure administrative, donc c'est assez court. C'est une pièce par contre qui est adaptée à la situation et qui permet que les personnes interpellées puissent attendre dans des conditions, je dirais, décentes, mais également des conditions de sécurité pour elles et celles des policiers.
Alors là, on arrive dans les rochers, dans des rochers presque rouges, hein. Là, on a un petit peu le vertige. On est très, très au-dessus de la route, quand même. On a un peu l'impression d'être dans une nacelle.
Marilyn Debiol, vous écrivez « On ne sait pas dans ce train où commence l'Italie. Peut-être au milieu d'un tunnel, le pays ferme les yeux et devient autre. »
Et nous, si on ferme les yeux aussi, peut-être qu'on devient autre. Dans cet endroit, c'est ça aussi qui est formidable à la frontière, c'est que notre propre identité, qu'est-ce que c'est quoi, qu'est-ce qu'elle devient dans cet endroit. C'est ça aussi l'enjeu, c'est de ne plus être sûr de rien au fond.
De frontières entre la France et l'Italie. Julie Gacon, Yvon Croisier. Avec Marilyn Debiol, auteure de Primo et Dans la route, tous deux parus aux éditions du Seuil. Avec François-Xavier Loche, directeur de cabinet du préfet des Alpes-Maritimes. Jean-Philippe Naon, directeur départemental de la police aux frontières. Le commandant Patrick Estève, de la police aux frontières. Yves Kinossian, directeur des archives départementales des Alpes-Maritimes. Et René Daon. Bibliographie sur le site de France Culture.
LSD, la série documentaire, Terminus, c'est tout pour aujourd'hui. C'est mis sur les rails par Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier. Et si vous voulez monter dans le train, bibliographie, lien, mais aussi nous podcaster pour la gare ou nous réécouter dans la salle d'attente, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez nous trouver aussi sur Facebook et nous suivre sur Twitter. Demain, dernière étape, expatrié du lac Léman à la frontière suisse.